1.
Didier Mauss, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été professeur de droit constitutionnel et de droit parlementaire à la Sorbonne, président de l'Association française de droit constitutionnel, rapporteur général de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République. Vous êtes membre du Parti radical, le plus ancien parti politique français. Vous êtes donc la mémoire longue de notre vie politique. Or, on vient de connaître un sacré rebondissement dans l'adoption de la réforme des retraites, l'exécutif ayant eu recours à l'article 49.3 de la Constitution pour éviter un vote à l'Assemblée qu'il risquait de perdre. Alors, forcément, les Français qui, selon les sondages, sont aux deux tiers hostiles à la réforme, le prennent mal et l'opposition parle de déni de démocratie. Les commentateurs, eux, parlent de scénario cauchemardesque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Écoutez, moi, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Le scénario n'est pas du tout cauchemardesque. Il était presque inscrit dans les gènes de la réforme. C'est-à-dire, ça fait des semaines qu'on se posait la question, est-ce que cette réforme des retraites, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, moi, j'ai pas...
Oui, c'est pas le sujet.
C'est
là.
Pas le sujet aujourd'hui. Va passer facilement ou pas. Bon, on a vu pire, hein, j'allais dire, on a des textes qui sont passés, même au début de la Ve République, sans qu'il y ait un vote positif au Sénat, à coup de 49-3 à l'Assemblée. Bon, là, on a quand même eu un vote positif au Sénat. On a eu un accord en commission mixte paritaire, ce qui n'était pas évident en tant que tel. Bon, là, c'était prévu. Alors, c'est vrai qu'on est dans un scénario un peu particulier, mais le scénario, il est voulu par les Français. J'allais dire, il n'y a pas de majorité homogène, cohérente et stable à l'Assemblée nationale en faveur du gouvernement. Voilà, c'est tout.
Mais justement, pardon de vous interrompre, oui. Didier Mauss, mais c'est là où le bât blesse, j'ai envie de dire. Parce que quand un gouvernement utilise le 49-3 pour passer en force quand une situation est bloquée à l'Assemblée, mais là, il passe en force, y compris contre la volonté de la majorité des Français qui sont hostiles à cette réforme. Et là, tout à coup, et c'est ce qu'on lit dans la presse étrangère, par exemple, on parle véritablement de coup de force.
Écoutez, il faut remonter à l'origine. L'article 49, alinéa 3, n'est pas une invention de la Ve République dans son principe, c'est une invention de la fin de la 4e République. Et c'est à de bons esprits, à la fin de la 4e, voulait qu'on trouve un système qui permettait de faire passer un texte qui n'était pas obligatoirement majoritaire, mais de donner le choix aux députés, soit vous laissez passer le texte, soit vous renversez le gouvernement, avec les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui. Alors ce texte, il n'a pas été fait sous la 4e, il a été fait sous la 5e, dans la Constitution de 1958, mais voilà, j'allais dire, c'est un texte qui est fait pour des situations politiques difficiles. Alors l'expérience montre qu'en réalité, on l'utilise dans deux types de circonstances. Un, quand il y a un vrai blocage, par exemple, d'obstruction et qu'on n'en sort pas. Bon. Et deuxièmement, quand il y a de vrais problèmes politiques, y compris avec sa majorité. C'est-à-dire, M. Mitterrand a utilisé l'article 49, alinéa 3, sauf erreur de ma part, en 1982, contre sa majorité pour la réhabilitation des généraux d'Algérie qui avaient marqué la génération du PS. Bon, voilà. Alors, je crois que... Moi, je ne reprocherai jamais... Je le dis franchement, d'un point de vue juridique, à un gouvernement d'utiliser les armes dont il dispose dans la Constitution pour arriver au résultat qu'il souhaite. Et il faut toujours rappeler qu'il y a dans la Constitution une phrase qu'on oublie un petit peu trop. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est l'article 20.
Mais reconnaissez que ça signifie quand même que le gouvernement n'a pas réussi à convaincre et qu'il n'y parviendra jamais. Il y a eu des débats, il y a eu assez de débats. On ne peut pas dire qu'on n'a pas débattu de la question. Mais en utilisant le 49-3 pour un texte majeur du second quinquennat d'Emmanuel Macron, au fond, il acte son propre échec.
Ah ben non, mais il est évident que l'utilisation du 49 alinéa 3 dans le contexte d'aujourd'hui n'est pas un succès pour le gouvernement. C'est un aveu de faiblesse politique du point de vue de l'arithmétique à l'Assemblée nationale. Bon, mais ça, j'allais dire, on le sait, Mme Borne l'a déjà utilisé sur d'autres textes à l'automne dernier, il n'y a pas de majorité stable, cohérente, homogène et disciplinée. Bon, voilà, c'est nouveau. Dans l'histoire de la Ve République, en tout cas l'histoire récente.
Oui, c'est arrivé à Michel Rocard.
Michel Rocard, il ne manquait pas beaucoup, 400 voix. Bon, ça, on arrivait à les trouver. Là, il en manque quand même beaucoup plus. Cette Assemblée nationale est très curieuse d'un point de vue de l'histoire politique. La plupart des groupes parlementaires n'ont pas de chef. Il y a un seul vrai chef, c'est Mme Le Pen. Ça, il n'y a pas de problème, ça marche tout droit. Les autres, ils sont un peu perdus. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dizaine de jours, il y avait un article dans un journal qui s'appelle le journal du dimanche, on peut le citer ici. On faisait un long portrait de Jean-Louis Bourlange, qui est un des meilleurs analystes politiques, bien qu'il siège président de la Commission des affaires étrangères, et il disait qu'il trouvait frappant, par exemple, que les députés Renaissance, qui sont quand même le premier groupe de l'Assemblée nationale, n'ont pas de vrai chef. Bon, ils ne savent pas où ils vont, et pourquoi ils ne savent pas où ils vont ? Parce que M. Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Donc on ne sait pas derrière qui il faut faire allégeance. Alors, la vie politique, si vous voulez, c'est aussi un système de parrainage. Hein.
On fait une pause, Didier Mauss. On revient au scénario cauchemardesque, entre guillemets. Je ne fais que citer. Oui, hein. Oui. On va voir s'il est si cauchemardesque que ça. C'est un fin connaisseur des arcanes de la Ve République, professeur de droit constitutionnel, de droit parlementaire à la Sorbonne. On revient sur les conséquences de l'utilisation du 49-3 par le gouvernement pour faire adopter sans vote sa réforme des retraites. Alors, on dit que désormais, Emmanuel Macron est condamné à l'impuissance. Il ne pourrait se reposer sur aucune majorité. Il ne peut pas non plus se reposer indéfiniment sur le 49-3, dont l'usage est limité à une fois par session parlementaire, hein, d'octobre à juin, sauf pour les textes budgétaires, ce qui est le cas ici. Hein. La réforme s'inscrit dans la loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, la loi PLF-SS. Mais pour le reste...
Écoutez, ce qu'on constate depuis le début de cette législature, c'est-à-dire depuis le mois de juillet dernier, ce qui est vrai sur des gros textes, il y a eu des difficultés. Sur la plupart des textes, on arrive à un accord avec la gauche, la droite, le centre, l'appui du Sénat. La curiosité, c'est que la vraie majorité parlementaire d'aujourd'hui, celle d'ailleurs qui a fait le texte sur les retraites, bon, ce sont les macronistes de l'Assemblée nationale et leurs alliés, mais qui ne sont pas majoritaires en tant que tels, plus la majorité du Sénat. Et là, on a une vraie majorité, on le voit très bien dans les commissions mixtes paritaires, c'est là où on fait la loi. Alors, c'est un système qui est totalement inhabituel, bon, mais c'est le système qu'ont voulu les Français à travers les députés qu'ils ont envoyés siéger à l'Assemblée nationale. Bon, comment ça va se développer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est absolument impossible à dire. Bon, M. Macron ne peut pas se représenter en 2027. Cela l'affaiblit, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est dans la situation d'un président américain dans son deuxième mandat. Il perd, non pas des pouvoirs constitutionnels, il perd des pouvoirs de pression politique.
Alors évidemment, qui dit 49-3 dit motion de censure. L'opposition ne s'en prive pas. Mais il faut se rappeler qu'en 64 ans de Ve République, une seule motion de censure a réussi à faire tomber un gouvernement. C'était en 1962. Georges Pompidou venait d'être nommé Premier ministre. C'est la seule fois...
C'est la seule fois. C'était dans la nuit du 4 au 5 octobre 1962. Alors, c'est la seule fois où la motion de censure a été votée. D'ailleurs, le gouvernement, bah, évidemment, a été renversé. Le général de Gaulle a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il a gagné. Il y a eu une séquence politique tout à fait remarquable.
Et Georges Pompidou était renommé.
Georges Pompidou est resté après, pendant des années, Premier ministre. Bon. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas non plus de majorité extraordinairement stable. La législature 1958-1962 est une législature sans majorité cohérente. On est encore dans le scénario politique de la dernière partie de la 4e République. On n'est pas encore dans le scénario majoritaire.
C'est là que ça bascule.
C'est là que ça bascule. C'est bascule en 62. Et Raymond Aron, qui était un très bon observateur de la chose publique, a très bien dit que 1962, la crise de l'automne 62, la victoire de Gaulle et des députés UNR, c'est la deuxième naissance de la 5e République.
D'ailleurs, il était tombé sur la question d'élire le président de la République au suffrage universel.
Voilà,
absolument.
Hein, la proposition du général de Gaulle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, pour qu'une une motion de censure soit votée, il faudrait que la quasi-totalité des députés LR votent la motion de censure et ils ont déjà dit qu'ils ne le feraient pas. Donc, de ce point de vue-là, j'allais dire, Mme Borne peut dormir sur ses deux oreilles. Elle ne sera pas renversée, il n'y aura pas de dissolution et il n'y aura pas de nouvelles élections.
En cas de dissolution, et elle serait indispensable d'après vous, Didier Mauss, en tout cas c'est dans l'esprit des institutions, si on fait tomber le gouvernement, il y a dissolution. En tout cas c'est comme ça que le général de Gaulle l'entendait.
Mais
rien
comme...
ne dit que c'est ce que, comme ça que l'entendrait Emmanuel Macron.
C'est comme ça que M. Macron l'entend, il l'a dit
aussi,
d'ailleurs très clairement, où il l'a laissé entendre, parce que c'est quand même un moyen de pression, et notamment vis-à-vis de la minorité des députés républicains, qui n'ont peut-être pas très envie de se retrouver devant leurs électeurs.
Mais la dissolution, elle aussi, elle est limitée à une fois par an. Hein. On ne peut pas faire ça toutes les semaines.
Hein. Non, on ne peut pas faire ça toutes les semaines. Mais si vous voulez, si on dissout, s'il y a de nouvelles élections, on peut espérer qu'il y aurait une nouvelle majorité. S'il n'y a pas de nouvelle majorité à l'issue de ces nouvelles élections, bah là, on est obligé de faire des compromis permanents ou de changer. On est dans un autre rapport de force politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait oublié que l'Assemblée nationale, encore plus que le Sénat, c'est aussi une question d'arithmétique. Bon, il faut qu'il y ait une majorité pour voter. En tout cas, qu'il n'y ait pas de majorité hostile pour vous renverser. C'est l'hypothèse dans laquelle on est aujourd'hui.
Mais en cas de dissolution, on a l'impression que là aussi, alors est-ce que c'est une question de chef, puisque vous disiez que le seul parti représenté à l'Assemblée nationale qui a vraiment un chef, c'est le Rassemblement national. Face à les dissolutions, on a l'impression que tous les partis sont mal à l'aise, sauf le Rassemblement national.
Ah ben, je crois que c'est tout à fait exact comme vision des choses. Alors, face à Mme Le Pen, il y a évidemment M. Mélenchon. Mais M. Mélenchon a un comportement assez curieux, il faut bien voir les choses comme elles sont. Moi, je trouve qu'il a eu tort de ne pas se présenter aux élections législatives et de ne pas utiliser la tribune de l'Assemblée nationale comme étant une chambre d'écho où il pourrait être encore plus virulent qu'il ne l'est dans la rue. Mais on me dit qu'il n'était pas complètement assuré de sa réélection à Marseille, alors qu'il n'a pas voulu prendre le risque. Bon, l'expérience a montré qu'il aurait été réélu sans aucune difficulté. Alors, est-ce qu'il serait encore, disons, dans cette hypothèse, véritablement le chef de la gauche rassemblée? Je n'en sais rien, j'allais dire, on ne peut pas sonder les reins et les cœurs aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que ses alliés écologistes, Parti socialiste et Parti communiste ne sont pas sur la même stratégie politique que lui. Lui est pour le chamboule-tout. Les autres seront quand même pour un jeu plus parlementaire.
Merci Didier Maus d'avoir été mon invité dans cette arrivée cette semaine. Et ce qui est également arrivé cette semaine, c'est ce manifeste paru dans l'Obs, signé par 109 personnalités qui veulent faire évoluer la loi sur la fin de vie. Parmi les signataires, il y a l'écrivain Gaspard Koenig. C'est mon prochain invité.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.